I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Cette semaine, Martin n'est pas là et ça tombe plutôt bien. Alors je vous entends dire, on pourrait dire ça toutes les semaines, mais non, vraiment cette semaine ça tombe très très bien. Et en fait c'est pas que Martin ne soit pas là qui tombe bien, c'est que Cyril soit là. Parce qu'il faut savoir que Cyril Morin, à mes côtés, dans une autre vie, il a été journaliste politique. Et évidemment, vous allez dire, la Stream Team, le football, c'est hors sol. Mais non, nous, on n'est pas hors sol. Et j'avais surtout envie de coller à l'actualité, de parler peut-être un peu 49-3 et d'avoir le décryptage de quelqu'un qui sait.
Le traquenard.
Parce que Cyril, voilà, il a fait comme journaliste politique. Donc, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière. Alors, j'avais proposé, préparé trois sujets qui iraient de le 49-3, est-ce un déni de démocratie ? Borne, une Cresson 2.0 ou Macron est-il au niveau ? Je suis sûr que tu as des avis très tranchés là-dessus.
Oui, alors j'étais journaliste, je n'étais pas encore éditorialiste, donc je ne faisais que rapporter des faits. On pourrait faire une émission entière là-dessus, c'est vrai, passionnant. Mais Maxime, je préfère qu'on reste sur notre terrain habituel quand même. Tu es un peu déçu de ma réponse, je le sens.
Mais en plus, je suis déçu d'une autre chose, c'est qu'Adrien, notre réalisateur, est lui aussi absent. Et lui, il aurait pu le faire aussi, il aurait été parfait également pour ça. Bon, il aurait donné une couleur un peu bleue à l'émission, pas trop rouge, mais ça aurait quand même été intéressant de l'entendre parler du 49-3, de Macron et des retraites.
Ça dénonce en direct dans cette émission, on arrive presque au temps de la délation là.
Ouais. Non mais là, on en profite, ils ne sont pas là tous les deux, parce qu'il faut savoir que...
Ils sont en colonie de vacances quasiment.
Ils sont quasiment en colonie de vacances. Bon, ils sont pas ensemble, mais ils sont partis en bons amis faire du ski, voilà, tout simplement.
Exactement.
Et eux, pour le coup, ils sont vraiment hors sol parce que pendant que la France se bat pour ses retraites.
La seule couleur qu'ils voient en ce moment, c'est du blanc et le jaune de la raclette le soir. Donc voilà, on leur passe le bonjour.
J'aurais quand même bien aimé que Martin soit là pour parler retraite avec lui.
Bah, il t'aurait encore charrié sur ton grand âge, ça c'est sûr.
C'est ça, oui, c'est vrai, ouais, ça aurait été une évidence, ça aurait été sa pirouette.
Ouais, habituel. De quoi parlons-nous aujourd'hui dans le FC Stream Team, émission qui, rappelons-le, est une émission de football.
Est une émission de football, même si des fois on peut en douter. On ne parlera pas de 49-3, on ne parlera pas de droit de veto, de dissolution, de motion de censure. On va parler de Ligue des Champions parce que ce vendredi midi a eu lieu le tirage, les quarts de finale. On connaît déjà le tableau final. Et avec Cyril, on va vous donner nos favoris. On va faire évidemment le tableau qui ira jusqu'au bout et sur lequel vous pourrez parier évidemment toutes vos économies.
Le sujet numéro 2, Maxime, on reviendra sur la liste donnée par Didier Deschamps jeudi avec une question sous-jacente. Qui doit être le capitaine de l'équipe de France ? Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, on vous donnera notre avis.
Et le dernier sujet, je vais aller vite sur l'intitulé, le classico, est-ce que tout le monde s'en fout ? C'est dimanche soir, c'est une tendance de fond, on va dire, sur les dernières années, que le Real-Barça soit pas autant médiatisé qu'il l'a été durant la décennie précédente. Et on va essayer de se poser les questions aussi, si tout le monde s'en fout, ben pourquoi ?
Voilà, vous connaissez le petit dicton habituel, le FC Stream Team est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de s'abonner à la page Eurosport FC et en bonus, vous aurez aussi Tour d'Europe tous les lundis, brillamment animé, je ne dis pas ça.
Auto-promo.
Donc voilà, vous vous abonnez et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments.
On va y aller, on va parler de la Ligue des Champions. On connaît les quarts de finalistes, on les connaissait déjà depuis mercredi soir. Maintenant, on connaît les affiches des quarts de finale et on va même aller plus loin puisqu'on connaît même le parcours jusqu'à la finale, donc le tableau. Alors aux États-Unis, c'est la grande période des tableaux avec la NCAA. Ils sont très durs à faire parce qu'il y a je ne sais plus combien de matchs et je voyais une stat hier que sur les tableaux qui ont été enregistrés, il y en a plus que moins de 1% qui sont bons parce qu'il y a eu plein de surprises.
On espère qu'on ne sera pas dans cette catégorie-là. Il y a un peu moins de matchs cette fois-ci.
Il y a un peu moins de matchs. On a un tableau, on va déjà vous donner les affiches des quarts finales. Donc Real Madrid-Chelsea comme l'an passé en quarts finales, ouais. Manchester City-Bayern Munich, le Guardiolaico, Milan-Naples, l'Italico, et Benfica-Inter, le année 60-ico. Donc on a quand même des affiches qui sont pas mal, et je trouve, alors je sais pas ce que tu en penses Cyril, mais déjà j'aime bien ce tableau qui est, on va dire, très très varié. On a un côté, ouais, avec presque les favoris habituels, et en dessous, Milan-Naples et Benfica-Inter, bah, les outsiders, ceux qu'on n'attendait pas là.
Ouais, on en parlait cette semaine, c'est un petit peu la Ligue, on confirme que c'est la Ligue des champions des outsiders, c'est-à-dire qu'on est à peu près sûr qu'en finale, il y aura une équipe, bah, on est même sûr, il y aura une équipe qu'on n'attendait pas à Paris Fête, ouais. Milan-Naples, Benfica-Inter, c'est pas des équipes qui étaient programmées pour aller aussi loin en Ligue des champions, et à l'inverse, il y avait aussi le risque de ces quarts de finale, c'était de voir des gros qui ne s'affrontaient pas et qui donc continuaient leur route. Là, on sait que bah, il va y avoir des dégâts et bah, Maxime, je te propose de rentrer tout de suite dans le jeu. Real Madrid-Chelsea en quart de finale, le retour est à Stamford Bridge cette année, c'était pas le cas l'année dernière. Bah, qui va sortir vainqueur de ce duel selon toi?
Moi je pense que le Real Madrid sortira vainqueur de ce duel. Alors l'année dernière, souvenez-vous, le Real Madrid avait été large vainqueur à Chelsea, 3-1, ouais, il me semble, et au retour il s'était fait remonter, pour le coup c'était là une remontada inversée, et finalement comme d'habitude au forceps et à la fois, le Real était passé. Moi, je pense simplement que cette équipe de Chelsea, même si elle a été plutôt bonne au retour contre Dortmund, reste quand même trop limité sur le long terme. Et je pense que le Real ira jouer une nouvelle demi-finale de Ligue des Champions. Pour moi.
Ouais, moi, je te rejoins sur l'analyse. Ouais, c'est pas la même équipe de Chelsea que la saison passée. Et puis, ce qui se dégage du Real Madrid, il y a quand même, malgré tout, encore une force collective dans les grands matchs. Donc, le Real, sans trop de soucis en quart de finale. L'autre quart de finale, là, c'est le vrai choc. Manchester City, Bayern, Munich. Bah, c'est peut-être le plus dur à prédire, ouais, honnêtement. Et on a misé sur Manchester City. Pourquoi? Parce que Erling Haaland, forcément. Parce que le Bayern qu'on a vu face au Paris Saint-Germain n'est pas forcément la version du Bayern la plus dominante qu'on a pu voir par le passé, et qu'on a dans l'idée malgré tout que dans le duel tactique Nagelsmann-Guardiola, il y en a un des deux qui a plus de réponses que l'autre, et que voilà, je vois malgré tout le Manchester City s'imposer, ou en tout cas se qualifier face au Bayern.
Ouais, je suis assez d'accord, et c'est de loin l'affiche, enfin sur le papier, la plus alléchante. Ouais. On avait fait ce matin une story, donc un papier pour parler des quarts de finale qu'on avait envie de voir, et dans les quatre quarts de finale qu'on avait choisis, il y avait évidemment celui-là, parce que voilà, comme tu le dis, il y a un duel de techniciens, il y a aussi ce que j'aime moi, le duel d'une logique et de collective. C'est-à-dire que là, on a deux vraies équipes qui jouent au ballon, qui s'appuient évidemment sur des individualités, parce que quand on a Haaland, on s'appuie sur Haaland. Il y a une forme de dépendance qui est bien logique. On est dépendant aux grands joueurs, mais il y a ce collectif derrière qui bonifie le tout. Et évidemment, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a quand même une petite différence. On l'a vu face au Paris Saint-Germain. Le Bayern est une équipe cohérente, mais ce n'est pas une équipe brillante. Ouais. Donc je pense que la différence, elle devrait se faire en faveur de City, qui reviendra, à mon avis, en demi-finale de la Ligue des Champions.
Dans le parti de tableau, Maxime, Milan-Napoli, assez alléchante comme affiche, pour le coup. On a choisi le Napoli parce que la force collective qui se dégage de cette équipe est absolument dingue. Parce qu'on le sait, le Milan est aussi un petit peu dans le creux de la vague actuellement. Et que... de ce qui se passe en Italie semaine après semaine, il se dégage beaucoup plus de certitude de cette équipe napolitaine.
Ouais, on sent que c'est son année. Alors, il ne faut jamais sous-estimer en Ligue des Champions le poids de l'histoire. C'est aussi pour ça qu'il y a très peu de nouveaux vainqueurs, ouais, parce que justement, c'est la prime au sortant. Il y a la prime à l'expérience que Naples n'a pas, puisque Naples joue son premier quart de finale. Mais je pense que oui, comme tu l'as dit, ils ont le vent dans le dos. C'est une équipe qui domine de très loin le championnat d'Italie et vraiment qui finit par vraiment croire en elle. Et puis pour le clin d'œil, moi ça me fait plaisir parce que c'est vraiment une affiche qui me rajeunit de très loin. C'est vraiment, ça sent les années des 80, fin des années 80, donc c'est plutôt cool. Donc, mais comme toi, je suis assez d'accord pour faire passer le Napoli devant l'AC Milan.
Et le dernier quart de finale, Benfica-Inter. L'Inter qui devait recevoir et qui finalement se déplacera à l'aller puisque l'AC Milan reçoit. Benfica-Inter, bah, on a misé sur Benfica. Là aussi parce que c'est une des équipes... les plus en vue de cette campagne de Ligue des Champions. Collectivement, c'est très au point. Individuellement, il y a des joueurs capables de faire la différence. Là aussi, l'Inter n'est pas une équipe qui dégage des certitudes dingo sur les dernières semaines. Et donc, cette demi-finale ultra sexy, Naples-Benfica, qui est la demi-finale des outsiders qu'on avait identifié après la phase de poule, mais qu'il fallait voir venir quand même au mois d'août dernier.
Ouais, parce que il y a identification après la phase de poule, mais la phase de poule ça se termine en décembre, ouais. Et même là un peu plus tôt avec la Ligue des Champions et avec la Coupe du Monde, pardon, 2022, et de réussir à le faire. Et là pour le coup, ils l'ont fait. Alors évidemment, Naples a eu l'Eintracht Francfort, c'est pas forcément un cadeau européen, mais n'empêche qu'ils ont aussi gagné le droit d'avoir ces adversaires là. Et Naples-Benfica, c'est vraiment la demi-finale que personne, j'imagine, avait vu venir. Sinon, cette personne, si elle a parié là-dessus, est déjà riche à l'heure qu'il est.
Alors, on va reprendre maintenant les demi-finales. On va aller jusqu'au bout de notre pronostic. Real Madrid-Manchester City. Manchester City.
Voilà. Manchester City, voilà. Bon. Alors, il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire que l'année dernière, c'est déjà, il faut le redire, le Real, pour l'instant, s'il suit ce tableau-là, serait sur exactement le même parcours que l'année dernière, en quart Chelsea, en demi-City. On a suffisamment dit que ce Real ne se relevait tout, qu'il pouvait revenir de nulle part pour ne pas lui faire confiance de rééditer ses exploits. Mais il n'empêche qu'il faut quand même se rappeler l'année dernière qu'entre la deuxième minute du match aller et la 91e du match retour, le Real est virtuellement éliminé par City. Et même si le poids de l'histoire compte, et là pour le coup, quand on parle d'histoire avec le Real, on est servi, je pense qu'à un moment, City... Ça va passer. C'est là, on est aussi dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire que cette équipe grandit tout le temps. Haaland est sans doute la pièce manquante. Alors, je sais que Guardiola a beaucoup à dire sur l'intégration d'Haaland. Il aimerait qu'il touche plus le ballon, mais non, mais c'est pas grave. Il en a 10 qui touchent très, 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 très bien le ballon, même dans les buts. Ouais. Donc, laisse tomber, laisse un poids mort, entre guillemets, dans ta surface. C'est ce qui peut-être manquait avant. Pour moi, on a vraiment l'alliage, non pas parfait, mais qui se rapproche d'une forme de perfection. Donc moi, je pense que Manchester City jouera une nouvelle finale de Ligue des Champions après l'édition 2021.
Pardon. 2021, absolument. Et l'autre demi-finale, on a choisi de faire sortir le Napoli, là aussi, pour récompenser le jeu et parce qu'on a aussi dans l'idée qu'individuellement, il y a quand même des talents un petit peu plus confirmés. Je pense à Osimhen, évidemment à Kvaratskhelia. Donc voilà, on a envie de voir cette équipe napolitaine comme l'Ajax de 2019, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. On a envie de vibrer avec cette équipe-là et de l'avoir récompensée avec une finale. Ce qu'elle ira au bout, on verra. On n'est même pas sûr que ce soit la finale qui se déroulera à Istanbul. Il n'empêche que voilà le tableau qu'on a décrypté. Et si on s'avance, Maxime, sur cette finale, c'est sûr que sur le papier, Manchester City part avec une grande, grande, grande longueur d'avance. Le seul avantage du Napoli sur cette potentielle finale, c'est que c'est sur un match.
Ouais. Mais je le répète, je tiens au poids de l'histoire, c'est difficile de gagner sa première finale de Ligue des Champions. Parce que là, vous rentrez dans une sphère différente. Et il faut quand même faire fi de tout ce qu'il y a, le poids de l'histoire, le poids, imaginez à Naples, la folie que ça pourrait être, déjà champion d'Italie, ça c'est à peu près gagné, derrière jouer une finale de Ligue des Champions, ça compte, si je ne m'abuse, le dernier à avoir gagné dès sa première finale, ça doit être Dortmund en 97, à un moment, c'est pas un hasard quand on étire la série comme ça, c'est très compliqué, et encore une fois, je le redis pour ce que j'ai dit, je vais pas le répéter sur la demi-finale, mais je pense que City, voilà, ça arrive à un moment où on en est vraiment plus très loin, et ce serait presque logique que ça arrive maintenant, parce qu'il y a en effet cet alliage collectif et cette individualité forte en attaque.
Moi, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais on est quand même sur une voie royale un petit peu pour le Napoli dans ce tableau, avec notamment trois clubs italiens, alors que le haut du tableau va falloir être sacrément costaud pour arriver jusqu'en finale, ce qui dira aussi beaucoup de la puissance de l'équipe qui réussira à arriver là, Manchester City ou une autre. Mais s'extirper de ce tableau-là risque de définir quand même le champion final.
Ouais, et alors, dernier mot là-dessus, c'est qu'en plus, c'est vraiment pas la finale, si vous m'aviez dit il y a 6 mois, on peut, parce que là on est en train de faire nos tableaux, on peut avoir une finale Manchester City-Naples, évidemment que je n'y aurais pas cru. Mais elle est hyper alléchante, parce qu'encore une fois, déjà, un, ça change, et deux, en plus, on a deux équipes qui jouent en bleu ciel, c'est une très belle couleur, et trois, tout simplement, c'est une promesse de jeu. Donc,
récompense de collectif, que ce soit Napoli, même Benfica, Manchester City, ce serait, c'est des équipes qui, chaque semaine, produisent des choses à même d'être récompensées sur la plus grande scène. Voilà,
Oui, je pense qu'on a tout dit. Gardez ce tableau. Enfin, non, ne gardez pas ce tableau.
Effacez-le, mais n'hésitez pas à faire vos propres pronostics, évidemment, et à venir nous chercher sur les réseaux sociaux
pour que l'année dernière,
donner votre pronostic.
On n'avait pas eu bon choix. Je me demande si on n'avait pas eu bon sur le Real, mais je ne suis plus sûr. Mais...
On est rarement très très bon sur ce genre d'exercice. On l'a fait à la Coupe du Monde avec Arthur, et on avait eu tous les huitièmes de finale.
C'est vrai ?
On avait été plutôt impressionnant. Ah ouais, après, ça s'était très largement gâté puisqu'on avait expliqué que l'Angleterre allait éliminer l'équipe de France. Ouais. Vous connaissez la suite, mais ça nous offre une très belle transition.
Ah, mais chapeau, j'irai voir cette vidéo. Ouais. Après, parce que là, c'est bravo en tout cas.
On va passer au deuxième sujet, Maxime, puisque vous n'êtes pas sans savoir que jeudi, Didier Deschamps a donné sa liste et sa première liste depuis la Coupe du Monde. Trois nouveaux noms. Samba, Khéphren Thuram et
Wesley Fofana.
Wesley Fofana, merci. On va plutôt s'intéresser à un débat un petit peu sous-jacent, ou en tout cas qui va être au cœur de la semaine internationale qui s'ouvre, c'est de savoir qui sera le capitaine de l'équipe de France sur ce rassemblement et peut-être après. Pourquoi sur ce rassemblement? Il nous convient quand même de rappeler qu'un certain Paul Pogba n'est pas là en raison d'une absence sur blessure et que de toute façon sa saison avec la Juventus Turin ne lui permettait pas d'être parmi les prétendants. Mais Paul Pogba, et on l'a suffisamment dit dans cette émission, est un capitaine qui ne disait pas son nom à l'époque de l'Euro, notamment de 2021. Depuis, les Bleus ont appris à vivre sans lui. Il y a eu cette finale de Coupe du Monde et le départ d'Hugo Lloris, puis de Raphaël Varane, puisque Varane semblait quand même être l'héritier naturel d'Hugo Lloris, ou en tout cas même Lloris évoquait Varane comme son potentiel successeur. Reste donc ce brassard à mettre autour du bras d'un des joueurs tricolores. Deux candidatures se détachent, Maxime, Griezmann, Mbappé. Qui doit être le capitaine?
Alors, je ne sais pas si c'est deux candidatures, mais il y a deux noms qui détachent. Parce qu'il y a une des deux qui ne me paraît pas une évidence en termes d'envie, on va dire. C'est sûr que Varane, ça aurait été la solution parfaite. Parce que Varane, justement, déjà, il était vice-capitaine. Donc, ça annonçait une forme de continuité à laquelle Deschamps est très attaché. Et puis, Varane, c'était une personnalité non clivante. C'est-à-dire que c'était moins difficile de le donner à Varane que de ne pas le donner à Mbappé, par exemple, ou à Griezmann, tout simplement. Là, il se trouve qu'on est dans une situation assez binaire. Ce sera ou Mbappé ou Griezmann, parce que Pogba, je pense qu'il est malheureusement pour lui hors jeu, et que s'il y avait un rassemblement à ne pas rater pour Al Brassard, c'était celui-là.
Exactement.
Après, ce sera trop tard. Une fois qu'il sera autour du biceps d'un des deux, c'est terminé. C'est marrant parce que c'est deux joueurs offensifs, même si Griezmann a reculé lors de la dernière Coupe du Monde, a priori, il va remonter. Mais n'empêche qu'on a vraiment, deux idées derrière ce brassard-là. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui s'appelle Kylian Mbappé qui en a très envie, qui a envie de prendre des responsabilités, il l'a dit, qu'il est prêt à tout assumer. Et il est dans cette génération un peu Ronaldo où on donne finalement souvent le brassard aux meilleurs joueurs, aux plus talentueux. Voilà. Ce n'est pas une logique qui s'est toujours appliquée en équipe de France, j'y reviendrai après. Mais en tout cas, il y a ce côté Mbappé qui paraît inimaginable parce que, un, il en a envie, c'est une voix qui porte, le droit à l'image, le Gret n'est plus là, il a eu un peu sa tête, enfin du moins il a démarré la Ligue, on va dire, et il en a très envie, il n'a pas peur. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir, s'il le prend ou s'il le veut, s'adapter parce que ça, c'est un devoir, ça demande des obligations, notamment la fameuse conférence de presse de veille de match, c'est celle du capitaine. Et ça, va falloir aussi qu'il s'arrondisse un peu là-dedans et aussi dans sa vision parce que, et là, ce n'est pas un défaut, il a quand même une vision quand même assez individualiste. Les droits d'image, je veux bien qu'il dise que c'est pour toute l'équipe, mais s'il n'était pas Kylian Mbappé, qu'il n'était pas une tête qui dépasse, il ne l'aurait pas fait. Donc, il faudra aussi qu'il arrondisse autour de ça, mais c'est sûr que il a le profil du capitaine, et j'en viens très vite à Griezmann, qui pour moi, de l'autre côté, serait plus un leader, disons par l'exemple, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, le don de soi. Moi, c'est l'idée que j'aime d'un capitaine, c'est-à-dire qu'il montre l'exemple. Voilà. Mais il y a une chose qui est assez claire avec Griezmann, c'est qu'il n'en a pas forcément envie. Pendant la Coupe du Monde, il était invité de Téléfoot un matin, je ne sais plus si c'était après le premier ou le deuxième match, où il avait dit en gros, moi je ne suis pas un leader par la voix, je le suis sur le terrain, il l'est par l'exemple. Et c'est vrai que c'est peut-être assez contradictoire avec l'idée de lui donner le brassard. Et ça pourrait surtout, à mon avis, Cyril, donner l'impression qu'on lui donne à lui pour ne pas le donner à Mbappé. À Kylian Mbappé.
Clairement. D'autant qu'il faut rappeler qu'Antoine Griezmann, si je ne dis pas de bêtises, n'a jamais été capitaine en club. On aurait pu penser qu'à l'Atlético de Madrid, où c'était le maître à jouer et c'était le cerveau de cette équipe, on lui donne ce leadership-là. Ça n'a jamais été le cas. Donc c'est vrai que ce n'est pas une des composantes d'Antoine Griezmann. Et je suis d'accord avec toi, le donner à Griezmann, ce serait priver un petit peu Mbappé qui ressemble au sens de l'histoire de toute façon. Et Hugo Lloris l'avait très bien expliqué après la finale et au moment de l'annonce de son retrait. C'est, on va passer sur la génération Mbappé et l'équipe surtout de Kylian Mbappé, une équipe qui sera tournée autour de lui. Et je trouve que l'analogie avec Cristiano Ronaldo se tient. On va être sur... En fait, Kylian Mbappé, il a un côté « j'assume d'être un leader » et plus j'ai de la pression et plus on se repose sur moi, plus j'ai tendance à me sublimer. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Il suffit de voir aussi comment, actuellement, au Paris Saint-Germain, son leadership est en train de s'imposer à tous. On en revient même à se demander si Marquinhos doit rester capitaine du Paris Saint-Germain parce que Kylian Mbappé remplit toutes les cases. C'est une suite plus que logique. Oui, ok, il est encore jeune. Oui, il est clivant. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va devoir travailler. Il n'empêche que, de par ce qu'il fait sur le terrain, ça reste un leader et ça reste un exemple. Et voilà, et si vous aviez vu le documentaire de TF1 consacré au parcours des Bleus à la Coupe du Monde, bah, dans le vestiaire à la mi-temps face à l'Argentine, bah, Mbappé, il prend la parole. Et c'est des moments qui, quand même, soudent un groupe et bon, font apparaître les vrais leaders.
Oui, parce que de toute façon, s'il n'y a pas Mbappé à la mi-temps ou sur le terrain, il y a 2-0, la finale ne reste pas dans les annales, on part du point. Et peut-être que même, presque Deschamps lui doit beaucoup, parce que justement, alors évidemment, perdre en finale, c'est une forme d'échec, mais vous êtes quand même en finale de Coupe du Monde, ce qui n'est pas anodin, et pour la deuxième fois de suite. Mais n'empêche que le souffle épique, il vient quand même de ses pieds, donc Deschamps ne fera jamais ça pour le récompenser, ça c'est certain, mais n'empêche que ce n'est pas illogique. Après, pour revenir sur une chose, je pense qu'il faut vraiment, comme tu as dit, il est clivant. On a des images, des fois on le voit avec. Il y a une image qui m'a marqué cette année, c'est avec Hakimi. On le voit dans le couloir du Parc des Princes où il dit en gros, donne-la-moi, la prochaine fois tu me la donnes, etc. Ça, c'est pas possible en équipe de France pour moi. Parce qu'à un moment, c'est aussi du management à une certaine manière. C'est qu'on ne peut pas taper sur les doigts de tout le monde tout le temps parce que les gens ne sont pas à votre niveau. C'est pour ça que parfois les capitaines, c'est bien mieux quand ce sont des joueurs d'équipe. Parce que il y a une exigence, mais qui n'est pas la même que pourrait avoir celle d'un Mbappé. Je me suis replongé un peu dans 40 ans de capitaine d'une équipe de France. Et ce qui est marrant, c'est que je remonte à Platini. Platini, c'est ce qui se rapproche le plus pour moi de Mbappé. Ouais. C'est-à-dire que j'assume qui je suis, le joueur que je suis, avec quand même ce côté collectif un peu plus marqué. Mais en tout cas, c'est vraiment le type de capitaine qui pourrait être. Après, il y avait eu Amoros et Fernandez qui étaient plus dans le rôle de capitaine de vocal et aboyeur, on va dire. Papin, c'était plus le côté star, et surtout parce qu'il n'y avait pas non plus grand monde à côté. Et puis après, il y a eu le moment où ça a tourné un peu, puis Didier Deschamps, qui, pour le coup, lui, c'est l'absolu contraire, on va dire, de Mbappé. Et puis après, de Saï, la suite logique, Zidane. Zidane, pour moi, c'est celui qui se rapproche le plus dans le caractère d'un Griezmann. Ouais. C'est-à-dire que c'est le joueur effacé, leader technique, mais qui, à un moment, on se dit, bon, il faut lui donner parce que c'est lui l'évidence et on lui a donné notamment quand il est revenu contre la Côte d'Ivoire en 2005. Voilà. Et puis après, évidemment, il y a eu Henri, la star, Evra, l'erreur et puis Lloris. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, tout ça pour dire que le panel de l'équipe de France est globalement équilibré entre les joueurs qui s'imposent d'eux-mêmes à la Deschamps, ce qu'il n'y a pas en équipe de France, ou les stars. Donc l'équipe de France n'a pas peur de ça et moi je pense que Didier Deschamps n'a pas tellement peur de ça non plus.
Faut aussi voir que si on donne le brassard à Kylian Mbappé maintenant, c'est aussi qu'a priori, c'est pour le garder pendant de très, très longues années. Mmh. Ça force aussi un petit peu la main aux futurs sélectionneurs, que ce soit Deschamps ou un autre. Mmh. Et ça, sauf si catastrophe dans la carrière de Mbappé, qu'on ne lui souhaite pas, mais on est parti pour 10 ans de Kylian Mbappé capitaine des Bleus, presque. Donc, ça aussi, il faut peut-être l'avoir en tête à ce moment-là. Et dernière chose, et Didier Deschamps l'a très bien expliqué, il faut qu'il en parle avec ces joueurs-là, parce que si ça se trouve, Kylian Mbappé va dire « Bah écoute, moi j'avoue que pendant une Coupe du Monde, je préfère, comme il l'a fait au Qatar, ne pas parler, ne pas me présenter face aux médias pour être concentré sur moi-même et ma propre performance, et que du coup, bah, capitaine, ça colle pas trop à ces exigences-là. J'en doute, j'ai un gros doute sur ça, mais c'est une possibilité. Et auquel cas, si c'est ce qu'on lui dit, bon courage à Didier Deschamps pour trouver. »
Et alors, Didier Deschamps, on a parlé, parce qu'il y a eu des questions évidemment sur le capitaine en conférence de presse jeudi, et il y a une question d'un confrère qui était justement sur est-ce que Kylian Mbappé peut être capitaine des Bleus. Il a eu cette réponse-là. Je cite. « Je retiens certaines possibilités. Kylian en fait partie. Ça passera par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision. Il y a une responsabilité par rapport au fait d'être capitaine, etc. Avec des obligations un peu plus importantes, je vais avoir cette discussion en interne avant de prendre ma décision. » Je ne sais pas quelle sera la décision de Deschamps, mais quand je lis cette, cette réponse, moi, je mets une grosse, grosse, grosse pièce sur Kylian parce qu'en fait, il cite Kylian Mbappé, il ne cite pas les autres. Il aurait pu très bien dire, bon, bah, pour ne pas froisser personne, citer les autres. Et surtout, quand il dit, je veux en discuter, il y a des obligations un peu plus importantes. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable d'accepter ça? Et je pense que s'il y a une discussion à avoir, c'est plus avec Kylian Mbappé qu'avec Antoine Griezmann. Et d'accepter, justement. Ouais. Alors, on peut aussi, parce que je ne suis pas toutes les confs du Portugal, mais il ne me semble pas que Ronaldo fasse toutes les confs d'avant-match.
C'est possible que non. En tout cas, la Coupe du Monde, il était souvent présent. Mais oui, c'est ouais. tu peux faire venir
là,
un joueur.
Là, c'est peut-être parce qu'il a besoin de se montrer. Ouais. Mais non, mais de toute façon, j'allais dire, une sélection fait un peu ce qu'elle veut. Ouais. Mais n'empêche qu'on a, en équipe de France, aussi loin que je me souvienne, c'est instauré ainsi. Et je me souviens même d'un De Saï à l'Euro 2004 qui ne jouait pas, qui était quand même venu, histoire de dire, je suis là, c'est joueur moi le capitaine. Donc, il y a une habitude comme ça. Et c'est sûr que ça demandera, encore une fois, d'être moins un peu centré sur soi-même et d'aller vers les autres.
C'est un vrai défi qui est proposé à la FFF aussi, parce qu'il va falloir résoudre les questions qui fâchent dès maintenant. Mmh, ouais. Un capitaine qui ne sort pas de sa chambre pour faire les obligations de sponsor comme l'a fait Kylian Mbappé par le passé, ça c'est juste plus possible pour le coup. Quand on est capitaine, on ne se représente plus uniquement sa personne, mais on incarne le groupe et on porte la parole du groupe. Donc il faut que les choses qui ne vont pas entre la FFF et l'équipe de France, et je parle des joueurs en l'occurrence, soient résolues avant de donner ce brassard à Kylian Mbappé. Mais on est d'accord. Le sens de l'histoire penche quand même très nettement envers le Paris.
Moi, j'aurais beaucoup aimé symboliquement Griezmann, parce que j'aime bien ce qu'il représente, mais à mon avis, ce sera Mbappé, parce que je faisais la comparaison avec Platini. Dans la liste que j'ai donnée, même Zidane ne s'assumait, enfin, évidemment, Zidane ne s'assumait pas ainsi. Lui, il s'assume complètement de A à Z et est capable de faire porter sa voix à des niveaux, même, encore une fois, le Grette. Mm. C'est quand même, voilà. Alors évidemment, il l'a fait sur les réseaux sociaux, il ne l'a pas fait directement. Enfin, moi, oser faire ça, voilà. Et peut-être aussi, c'est le moment opportun parce que, évidemment, la FFF a changé de tête puisque Le Graët n'est plus président. Peut-être le moment de faire tout accepter, de faire tout passer d'un coup et au moins, ça réglera le problème. Donc, on aura la réponse dans la semaine. Ouais. Je ne sais pas comment ça va être communiqué, mais on verra ça. De toute façon, le match, c'est vendredi face aux Pays-Bas.
On va terminer, Maxime, ce FC Stream Team avec un match qui nous aurait complètement excités il y a quelques années en arrière. C'est le Classico, ce Real Madrid FC Barcelone. Et une question centrale, que reste-t-il du Classico? Ou plutôt, pourquoi tout le monde s'en fout? Ce sera dimanche soir à 21h et autant vous le dire, les audiences ne devraient pas être celles que... qu'ont connu l'Espagne dans les années 2010 au plus fort de la rivalité. Comment on explique que ce match, qui était quand même le match le plus suivi de l'année, quasi systématiquement avec la finale de Ligue des Champions, qui parfois a fait des pics d'audience mondiale complètement dingues, comment ce match est redevenu classique, presque banal?
Pour moi, ça, je dirais que c'est un classico déclassé. Classico déclassé, et ça ne date pas de cette année, mais là, c'est particulièrement marquant parce qu'en plus, si on prend juste l'instant présent, la lutte pour le titre, elle n'existe pas vraiment. Ouais. Le Barça est loin devant. Le Barça est une machine à ne pas prendre de but. Le Real navigue entre deux à cet objectif de la Ligue des Champions qui vient un peu changer sa saison. On a du mal à vraiment être passionné. Et moi, dimanche soir, très honnêtement... je suis à peu près sûr que je vais regarder Reims Olympique de Marseille. Voilà. Ce qui n'aurait pas été forcément une évidence il y a 5, 6 ans, 7 ans. Ce classico-là, il arrive à un moment où, justement, l'Espagne a eu sa toute puissance. Souvenez-vous de décembre 2010, la fameuse Manita. Là, on était vraiment à l'apogée. Ouais. Le printemps suivant, avec les 5 matchs en quelques semaines, en demi-finale de la C1, en demi-finale de la Coupe du Roi, ou en finale, je ne sais plus, et en championnat d'Espagne. Là, ça avait été une période folle où là, en plus, c'était exacerbé, Mourinho-Guardiola, ça partait dans tous les sens. Et en fait, j'ai l'impression que les années 2010, les années Messi-Ronaldo, ont créé un monstre, voilà. Et que les conséquences ont été plus graves aussi pour le Barça, même si le Barça va être champion d'Espagne, paradoxalement, parce que le Barça a essayé de courir derrière l'argent et s'est complètement désavoué. On a vu l'affaire Negreira, dont Anna Caro a très bien parlé dans Tour d'Europe lundi. On en est là à un Barça qui n'est plus le Barça, qui a des dettes, qui est aux abois, qui essaie de se reconstruire. Donc évidemment, il y a ce côté qui ne donne plus tellement envie. Il faut le dire aussi sur le terrain, Ah, il y a moins de stars, tout simplement. Ouais. Messi est parti, Ronaldo est parti depuis longtemps. Mais il n'y a plus ces deux têtes d'affiche.
Mais même Sergio Ramos.
Oui, voilà, exactement.
Voilà, des figures, au moins, au-delà des stars, des figures identifiables.
Et Ramos, c'est un bon exemple parce qu'en fait, ce qui marque aussi, je pense qu'il manque, c'est l'animosité qui a disparu.
Exactement.
Pour avoir un classico qui tient, il faut deux équipes qui, si possible, ne s'aiment pas. Et en l'occurrence, c'est derrière. Alors là, avec l'affaire Negreira, c'est un petit peu moins vrai parce que le Real, voilà. Mais et encore.
Ouais.
Voilà. Mais pourquoi ? Parce que ce sont des équipes qui sont. Surtout le Barça, le Real un peu moins. Le Real a fait un peu moins n'importe quoi, et même de loin que le Barça au niveau de ses finances. Ces deux équipes qui ont besoin maintenant de courir. Ils ont un ennemi commun, c'est l'Angleterre. Il leur faut de l'argent, de l'argent, de l'argent pour retrouver le niveau, les ambitions qui étaient les leurs. Et donc, ils sont finalement devenus, d'une certaine manière, partenaires avec, évidemment, en toile de fond, la Super League. Donc, tout ça fait que le sel du Classico a été perdu ces derniers mois, même ces dernières années.
Paradoxalement, mais c'est vrai que le match aller était un petit peu plus excitant sur le fait de savoir si ce Barça allait, celui de Xavi qui avait réussi à gagner 4-0 en fin d'année passée, allait surfer sur la vague. Là, en fait, tout est déjà joué finalement. C'est un match qui est en plus anecdotique dans la course à la Liga. Et je trouve que c'est aussi un match qui est le désintérêt autour de ce match est aussi lié au désintérêt qu'il y a autour de la Liga. Qu'on voit en Europe avec un seul club espagnol, ce qui est quand même rarissime normalement à ce niveau en quart de finale. Et ce championnat qui a un petit peu perdu le mojo, voilà, c'était the place to be il y a quelques années, ça allait beaucoup moins. Et je suis d'accord avec toi, le vrai problème, c'est l'animosité. On n'a plus du tout d'histoire croisée entre les joueurs. Voilà, y a plus que Benzema et le FC Barcelone, mais plus sur une relation historique au but vis-à-vis de ça. Mais sinon, on est... Voilà, deux équipes plutôt jeunes maintenant, même si le Real a encore des grognards brillants, mais qui ont tourné une nouvelle page. Je pense que ça joue beaucoup, et même si vous regardez la presse espagnole, j'ai fait un petit tour ce matin pour voir ce qu'on en disait. On est vendredi à J-2. Il y a des années en arrière, c'était en une de tous les médias. Là, on parlait du tirage au sort du Real Madrid, évidemment, mais on n'est pas du tout sur la même couverture médiatique. Donc, il n'y a plus du tout ce récit-là. Et c'est lié autant aux difficultés financières et donc sportives du FC Barcelone qu'au fait que le Real Madrid n'a pas encore complètement basculé dans ce Real Madrid 2.0 qu'on nous avait promis. On est encore, je trouve, dans une période de transition au Real, même si c'est des transitions qui gagnent beaucoup de titres.
Ouais, ça va.
Mais on n'a pas encore The Next Big Thing. Kylian Mbappé, si vous nous écoutez, si tu nous entends, évidemment, c'est à ça qu'on pense. Mais il n'y a plus du tout ce choc des figures, quoi. Et quand on se dit que le match de dimanche, ce sera Vinicius face à Lewandowski ou Benzema face à Lewandowski, même ça, c'est plus suffisant, quoi.
Ouais, et c'est marrant, tu parlais du traitement tout à l'heure. Même nous, moi, je me souviens, il y a 2011, on avait, pendant les semaines qui avaient entouré tous les classicos dont je parlais tout à l'heure, un journal quotidien du classico. Ouais,
bien sûr.
On mettait des moyens absolus pour ça. Et finalement, ce que ça montre aussi, c'est qu'une fois que et Messi et Ronaldo ont déserté, finalement la vitrine elle est un peu nue, il ne se passe pas grand chose. Tu parlais de Next Big Thing, et ce qui prouve aussi le désintérêt d'une certaine manière, c'est que dans un monde idéal, cette année, dans un monde idéal pour eux, ça aurait pu être Mbappé versus Haaland.
Dans un monde où il y a de l'argent.
Non mais et dans un monde où, dans lequel ils s'imaginaient encore.
Ouais,
c'est-à-dire que, souvenez-vous du père Haaland qui vient avec Mino Raiola à l'aéroport de Barcelone, on le voit. Ça paraissait une destination plausible, et la Liga était très contente de dire on a pu Messi, Ronaldo. C'est normal, les deux autres qui vont venir, c'est évidemment les deux meilleurs. Mbappé, Haaland, on va continuer sur cette narration marketing, sauf qu'entre deux. Et d'avoir poussé au bout cette logique Messi-Ronaldo les a forcés, et là je parle vraiment surtout du Barça, à faire un peu n'importe quoi financièrement et à ne plus pouvoir avoir les moyens de leurs ambitions. Donc au lieu d'avoir Mbappé-Haaland, on a Benzema, Lewandowski, ce qui est très très bien,
oui.
On va pas de méprise, on a deux avancantes incroyables.
On a Xavi Ancelotti aussi.
Je me mets du côté de la Liga et du marketing, évidemment. Ouais. Ah oui, c'est sûr que alors on peut penser ce qu'on veut du football aujourd'hui, que ça ne devrait pas tourner qu'autour de Messi, Ronaldo ou de Mbappé, Haaland. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est le principal argument de vente. Et cet argument de vente, la Liga et le Real et le Barça ne l'ont plus. Enfin, ne l'ont pas.
Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, Maxime. J'en profite parce que là, on a très bien vendu cette affiche pour vous dire que dans Tour d'Europe, on commencera l'émission lundi sur le débrief du Classico. Bah merci Maxime. On souhaite une bonne semaine au ski à Martin et à nos collègues.
Non, comme moins d'une semaine.
Moins d'une semaine, c'est vrai. Mais vu ce qu'ils vont manger, ce sera l'effet d'une semaine.
Ah, oui,
je les connais.
Sûr.
On remercie Simon à la réalisation et Quentin au visuel. Rappel, le FC Stream Team est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et pour retrouver les meilleurs moments, c'est en vidéo sur eurosport.fr.
Voilà, à la semaine prochaine.
Salut.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.